Bonjour et bienvenue, c'est vendredi 2 novembre 2018. Il pleut, il vente et il fait pas très très froid, mais il faut quand même s'habiller là. Puis plein de feuilles partout. Alors on va certainement vous jouer une chanson en lien avec cet automne. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Ça va?
Oui, vous-même?
Oui, oui, bien, merci. C'est vendredi, puis c'est vrai, on va reculer l'heure en fin de semaine.
Oui.
Et moi, j'adore ça.
Oui, parce qu'il fait plus tôt. Non, il fait clair plus tôt, et voilà.
Oui, ouais, ouais. Moi, c'est plus parce que ça me donne une heure de plus.
Oh.
Oui.
Ça ne change rien.
Ah, pour moi, ça change tout. Je ferais ça toutes les fins de semaine.
Vous êtes recalibré pour 6 mois.
Oui, d'une certaine façon. Je prends mon temps pour ajuster mes horloges et les montres. Et puis là, je regarde l'heure, je dis non, c'est vrai, il n'est pas 15h, il est 14h. Puis je sais pas, ça me rend de bonne humeur.
Ben moi, je fais ça la veille. J'ai dit de faire ça à 2h du matin.
Vous êtes un anxieux. Ben moi aussi, mais pas pour ça.
Non, non, je ne prends pas question d'anxieux. Ils disent de faire ça parce que si on l'oublie le lendemain.
Vous écoutez?
Si on l'oublie le lendemain, là, on est décalé. Puis je me lève pas à 2h du matin pour changer mon heure.
Ouais.
C'est à 2h du matin que ça se passe.
Ouais, ouais. Mais dimanche après-midi, moi, j'aime ça, justement, me rendre compte que finalement, j'ai pas changé mon heure et qu'il me reste une heure, que j'ai une heure de plus. Vous comprenez le principe?
Oui, mais il y a un risque de l'oublier.
Non.
J'ai déjà vu du monde rentrer en retard.
Ah oui, ça, c'est sûr. Oui. Mais là, je vous parle de moi. Là, je fais ma petite moi. Mais c'est ça, c'est juste que je m'en rends compte une fois que je rentre dans la voiture, puis je me dis, c'est vrai, on n'est pas, comme je vous l'ai dit tantôt, 15 heures, n'importe quelle heure. Ça me réjouit finalement. Alors, allez-y donc.
Et à 6 heures le matin, il fait clair. C'est ce qui me réjouit.
Ah oui, mais pas pour longtemps.
Mais c'est pas grave, je suis un lève-tôt, moi, donc je me lève, il fait noir à 6 heures, my God.
Ouais. Ça vous remonte le moral, le fait qu'il fasse
la clarté,
plus clair.
Oui.
Ah, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'on parle beaucoup de dépression saisonnière et certaines personnes sont très, très affectées et ils se sont procurés, comment on appelle ça?
Une lampe
solaire. Paraît-il que ça fait effet?
Ah,
ouais, ouais.
On bronze.
Non.
Non.
ça génère, je sais pas, l'hormone de la bonne humeur. Il faudrait faire venir un médecin pour nous parler de ça, là, parce que je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je sais que ça fonctionne.
Ouais, ben ça fonctionne, tant mieux.
Mais oui, parce qu'on veut pas que les gens soient sombres, de mauvaise humeur.
Non.
Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui commencent à décorer à Noël en novembre, mais ça, moi, ça me déprime.
Oui, il faut attendre l'Halloween quand même. Le novembre, pas l'Halloween est passé déjà.
Non. Moi, je trouve que le mois de novembre, c'est un mois pour se recueillir.
Le mois des morts.
1er décembre, musique de Noël, on peut. Avant ça, non.
Non, c'est un peu exagéré.
Mais il n'y a personne qui m'écoute de toute façon. Allez-y, Maurice.
Moi, je vous écoute.
Moi, je vais vous écouter.
OK, bon, on est deux. On est deux à s'écouter. C'est bon, c'est un début. Plus nos auditeurs, donc on est quelques-uns à s'écouter.
Oui, chers auditeurs, qu'est-ce qu'on ferait sans eux?
2 novembre, c'est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, qui a été créé en 2008 par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et le Canada, il y a des petits bugs présentement, mais en tout cas, ils ont passé une loi là, pour mourir dans la dignité maintenant. Mm-hmm. Tant mieux. Quelques événements. En 1671, c'est une première brasserie industrielle est créée à Québec. Elle ne doit plus exister parce qu'on n'a pas de nom. En 1916, Ottawa dénonce un complot de l'Allemagne qui était destiné à répandre la fièvre aphteuse dans le bétail canadien. Ça date pas d'hier. On entendait parler de la vache enragée il y a quelques années à peine.
Oui, la vache folle.
Oui. Merci. En 1936, un premier syndicat d'enseignantes, l'Association catholique des institutrices rurales, est créée au Québec. Je n'étais pas là, mais j'imagine que Maurice Duplessis devait ruer dans les brancards. Il devait être de très mauvaise humeur. Toujours en 1936.
Ça vous réjouit.
Ben oui, il faut être pro-syndical. En 1936, une loi fédérale crée Radio-Canada, le fédéral lui donnant le pouvoir de réglementer aussi les diffuseurs privés. En 1947, c'est la fin du rationnement alimentaire au Canada. Post-deuxième guerre mondiale. En 1959, devant un comité du Congrès aux États-Unis, Charles Van Doren admet qu'il savait les réponses à l'avance au jeu 21 du réseau NBC. Pour ceux qui savent l'histoire, ça avait fait un gros scandale. C'était un gars qui avait gagné, je sais pas combien, mais il connaissait toutes les réponses. Puis un moment donné, ils ont découvert qu'il trichait.
Ça me fait penser au sketch dans La Petite Vie, là.
Ça se peut,
l'émission où les personnages de La Petite Vie donnaient les réponses.
Oui, dans l'oreillette, je me souviens.
Il y avait Jean Besseret qui animait, je pense, à l'époque où il était vivant, évidemment.
En 1960, c'est l'ouverture de l'École nationale de théâtre. En 1976, le candidat démocrate Jimmy Carter est élu président des États-Unis. En 1979, à la porte de la chapelle à Paris, le criminel Jacques Mérine, ou Messrine, c'est toujours controversé
ouais,
son nom,
débat.
Périt sous les projectiles de la police. On le connaît parce qu'il était pas hébergé, mais il est resté quelques années ici aussi au Québec. En 2000, un équipage de deux Russes, oui, et un Américain est le premier à s'installer dans la station spatiale internationale nommée Alpha et est arrimé au vaisseau Soyouz. 2001, c'est l'adoption de déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. En 2003, l'Église épiscopalienne consacre Gene Robinson, premier évêque ouvertement homosexuel de l'histoire des États-Unis, provoquant l'indignation d'une partie de l'Église anglicane. 2004, George W. Bush est réélu président des États-Unis après que bien du monde avait prédit qu'il ne passerait pas. Et voilà, ça fait le tour. Et on souligne deux anniversaires aujourd'hui. La reine Marie-Antoinette, née Antonia, qui est née à Vienne en 1755, et une voix très connue sur nos ondes d'ici, pour quelqu'un qui écoute régulièrement la radio. Clotilde Say, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite un très joyeux anniversaire.
Oui, bon anniversaire, Clotilde.
En sa 50e année. En 1975.
50e année?
Ah, s'il ne faut pas dire l'âge des gens, excusez-moi.
Non, mais je pense qu'elle n'a pas 50 ans.
52?
Non, mais je ne dirais pas son âge, mais je sais qu'elle a célébré en grande pompe son 60e anniversaire, l'année passée.
Ok. Puis, je suis allé dans le temps, excusez-moi.
Ouais, je pense que Clotilde assume complètement son âge. Okay. De toute façon, elle est sexagénaire, c'est très, très jeune.
Oui, oh, oui, encore. Et on souligne un décès aujourd'hui, Pierre Paolo Pasolini était assassiné en Italie en 1975, triste événement. Ça fait le tour de ce 2 novembre. Pardon, et voilà, on y va, c'est parti.
Merci. À la une de la presse, sécurité aérienne, il est sur la voie de circulation, point d'exclamation. Le 7 juillet 2017, lors de son atterrissage à San Francisco, un avion d'Air Canada a failli provoquer ce qui aurait pu devenir la pire catastrophe aérienne de l'histoire. Récit d'un cauchemar évité. Des bambins à quatre pattes dans la rue pour jouer. L'employé d'une garderie est congédié pour s'être opposé à un jeu dangereux. Élection de mi-mandat américaine quand Québec Inc. finance les Républicains. Aussi en sport, Capitals 4, Canadiens 6, les Capitals de Washington, le CH et Kotkaniemi nullement intimidés et pose chic le retour d'American Apparel. Petites erreurs à la chaîne, il est 23h56 quand le vol AC-759 d'Air Canada, piloté par Dimitrios Kissus et son premier officier Matthew Dampier, tente de se poser à San Francisco. Il fait noir, bien sûr, et le tarmac de l'aéroport est éclairé comme il se doit. Mais pour des raisons qui, même après une enquête méticuleuse du National Transportation Safety Board américain, restent nébuleuses, l'Airbus A320 d'Air Canada tente de se poser sur une voie de circulation parallèle à la piste d'atterrissage 28R qui lui était assignée. Quatre avions attendent sur cette voie de circulation qu'on leur donne la permission d'utiliser la piste 28R pour décoller. L'avion d'Air Canada est à une altitude d'à peine 100 pieds quand il survole le premier. Constatant leur erreur, les pilotes canadiens remettent les gaz et reprennent de l'altitude, mais pas avant d'en survoler un deuxième d'à peine 10 pieds. Comment en sont-ils arrivés là? Alors, le journaliste, il s'appelle Jean-François Coderre, fait le récit d'une succession de petites erreurs qui ont bien failli coûter des centaines de vies. Et dans un autre onglet du récit du dossier, on peut lire que le Canada doit mieux gérer la fatigue. Au moment de l'approche ratée à l'aéroport de San Francisco, le pilote du vol 759 d'Air Canada en était à presque 19 heures d'éveil. L'une des principales conclusions des enquêteurs américains qui se sont penchés sur cet événement vise les règles canadiennes en matière de gestion de la fatigue des pilotes. La réglementation canadienne actuelle ne fournit pas, en certaines circonstances, un repos suffisant aux pilotes de réserve, ce qui peut faire en sorte que ces pilotes volent en état de fatigue au moment où leur rythme circadien est à son plus bas, écrivent les enquêteurs du National Transportation Safety Board américain dans le rapport. Le gouvernement canadien semble lui aussi d'avis que sa réglementation sur la fatigue a besoin d'une mise à jour. Dans un projet de règlement présenté à peine 6 jours avant l'événement de San Francisco en juillet 2017, il explique que son règlement actuel repose sur un modèle très élémentaire et que le pays doit modifier ses règlements de manière à se conformer aux normes de l'OACI et à tenir compte des principes scientifiques sur la fatigue. Des bambins à 4 pattes dans la rue pour jouer écrit entre guillemets. Après 15 années à travailler dans une garderie du quartier Hunsick, une employée a été congédiée sans discussion ni préavis. Sa faute, avoir signalé à la propriétaire des lieux son désaccord avec un jeu qu'elle estimait dangereux pour la sécurité des enfants. En août dernier, une quinzaine de bambins de 3 à 5 ans fréquentant les garderies privées non subventionnées L'Abri et La Bonbonnière marche boulevard Olympia, entre les rues Fleury et Soriole-Est. Des adultes les accompagnent, dont France Chambefort, propriétaire des deux garderies. Pendant un rallye vers le parc du coin, Mme Chambefort propose un jeu aux enfants. Traverser le boulevard Olympia, d'un trottoir à l'autre, à 4 pattes. De retour à la garderie, La Bonbonnière, des éducatrices qui ont assisté à la scène témoignent de leur malaise à la directrice adjointe Mylène Mallette. Dès le lendemain matin, des parents incrédules, mis au parfum de l'activité, s'interrogent sur la sécurité de leurs enfants. Certains demandent que leurs bambins ne participent plus aux sorties hors du terrain de la garderie. Madame Mallette écoute leurs doléances, partageant leur désaccord face au « jeu ». La même journée, furieuse que son employé ne l'ait pas défendu face aux parents, la propriétaire de la garderie prend à partie Madame Mallette. En plein milieu de la journée, devant les enfants, elle pique une colère et congédie la directrice adjointe. Pour France Chambefort, les enfants ont très bien compris que l'activité en question n'était qu'un jeu. Or, Mylène Mallette n'est résolument pas la seule à avoir trouvé que le jeu n'est pas drôle. Dans les jours qui ont suivi l'événement, des enfants ont été retirés de la garderie La Bonbonnière et 2 plaintes ont été déposées au ministère de la Famille. Craignant de devoir porter l'odieux du jeu controversé après avoir été congédiée, Mylène Mallette a envoyé un courriel à tous les parents pour leur expliquer la situation. J'ai 91 ans. Je suis toujours sortie avec les enfants. Il aurait fallu que je sois folle pour les mettre en danger, c'est ce que dit France Chambefort, propriétaire des garderies L'Abri et La Bonbonnière. Malgré les événements, Mme Mallette souhaite toujours retrouver son emploi. Je suis à La Bonbonnière depuis l'ouverture. C'est un peu mon bébé, dit-elle. Mon but n'est pas de faire tort à Mme Chambefort. Elle a donc soumis son dossier à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et espère aller en médiation. Elle attend maintenant de savoir si son ex-patronne souhaite y participer. Éviter l'autoroute 40, à elle seule, la fermeture complète de l'autoroute 40 sur une distance de 8 km dans l'ouest de la métropole durant toute la journée de dimanche, présagerait amplement une fin de semaine de cauchemars dans la circulation dans l'île de Montréal. Malgré cela, le ministère des Transports du Québec, la Société fédérale chargée des ponts Jacques-Cartier et Champlain, ainsi que le responsable de la construction du nouveau pont Champlain, signature sur le Saint-Laurent, iront tous de leur contribution personnelle à la congestion routière ambiante pour rendre la vie des automobilistes un peu plus misérable. Alors, la plus importante voie de circulation est-ouest de la région métropolitaine de Montréal sera complètement fermée dans les 2 directions pendant près de 36 heures pour permettre la démolition d'un pont d'étagement ferroviaire qui passe au-dessus de l'autoroute 40. Cette fermeture sera en vigueur à partir de 18 heures demain soir jusqu'à 5 heures lundi matin. Une déviation balisée sera aménagée à chaque extrémité du tronçon fermé pour détourner le trafic vers l'autoroute 20. Malgré cette fermeture exceptionnelle, le ministère des Transports du Québec fermera quand même plusieurs bretelles de l'échangeur Turco pour toute la fin de semaine, dont l'une reliant l'autoroute 15 à l'autoroute 20 Ouest, qui est la voie de rechange à l'autoroute 40. Les automobilistes en provenance de l'ouest de l'île sur l'autoroute 20 ne pourront pas non plus atteindre l'autoroute des Caries, l'autoroute 15 Nord, à travers l'échangeur Turcot. Enfin, la bretelle de l'autoroute des Caries, autoroute 15 Sud, en direction du centre-ville de la métropole, sera aussi fermée pour toute la fin de semaine à compter de minuit ce soir. Liberté revient sur sa décision et reconduira son engagement à s'approvisionner auprès des producteurs de lait de chèvre du Québec, a confirmé l'entreprise à la presse hier. Des trois principaux acheteurs de lait de chèvre, seul Agropur ne s'est pas prononcé pour la poursuite d'un accord. On a sécurisé 80 % du lait, il reste peut-être 20 % des volumes pour Agropur, estime Christian Dubé, président des producteurs de lait de chèvre du Québec, qui avait laissé entendre que l'approvisionnement aurait pu se faire en Ontario, où les prix sont plus bas en raison d'un surplus de production. Les producteurs de lait de chèvre du Québec étaient plongés dans l'incertitude alors qu'en octobre, Liberté et Saputo n'avaient toujours pas réitéré leurs engagements vis-à-vis des producteurs de la province. À la fin de septembre, Saputo a fait volte-face en maintenant les ententes locales. Les deux entreprises ont finalement renouvelé leurs contrats à des niveaux comparables à ceux de l'année précédente.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sans penser à demain. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Que vendra par Zaz.
En une du Devoir, une photo du groupe Les Trois Accords. Hier, je vous disais que l'album allait être disponible à partir du vendredi 9 novembre. Et non, bonne nouvelle, c'est à partir d'aujourd'hui même. Les membres des Trois Accords, de bas en haut et de gauche à droite, nous voyons Charles Dubreuil, Pierre-Luc Boisvert, Simon Prou et Alexandre Parr. Les Trois Accords, tout pour le plaisir, enregistré dans la fébrilité. Le sixième disque recèle 11 titres éclatés. Et Frénétique, c'est un article de Philippe Papineau. Immigration, Legault manque d'alliés à Ottawa. Même le chef conservateur Andrew Scheer garde ses distances avec les propositions caquistes. Le Devoir aux États-Unis, le président tweet et la caravane lasse. à Laredo, sur la frontière du Mexique, en attendant le complexe vote latino. C'est Stéphane Baillargeon qui est là. Culture, H-T-M-L-L-E-S, H-T Mademoiselle, après MeToo, au-delà du mot-clic, échec et devenir. Et la chronique de José Blanchette, tic-tac, tic-tac, il est moins deux à l'horloge de l'apocalypse. Elle ne parle pas ici de l'horloge qu'il faudra changer en fin de semaine, puisque, je le rappelle, on recule l'heure. Le premier ministre François Legault n'a pas trouvé d'alliés dans la capitale fédérale pour mettre en branle les deux mesures phares de son plan en immigration, à l'exception du Bloc québécois. À moins d'un an des élections fédérales, le chef conservateur Andrew Scheer n'a pas cru bon de s'associer publiquement ni à la promesse de la Coalition Avenir Québec d'abaisser temporairement le nombre d'immigrants admis au Québec, ni à celle de soumettre les nouveaux arrivants à un test des valeurs et un test de français. Je respecte le champ de compétences de la province de Québec, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se concentrer nous-mêmes comme parti fédéral, a-t-il déclaré devant l'édifice Honoré Mercier à Québec jeudi. M. Scheer y avait rencontré le nouveau locataire François Legault, avec qui il a, selon ses dires, eu une discussion très cordiale sur quelques enjeux. Durant leurs échanges d'environ une heure, M. Legault lui a notamment expliqué ses priorités en matière d'immigration, à commencer par la réduction du nombre d'immigrants admis annuellement au Québec de quelque 52 000 à 40 000 dès 2019. Devant les caméras de télévision, M. Scheer a refusé de dire ce qu'il en pensait. « J'ai écouté ses explications. Comme je l'ai dit, nous travaillons maintenant sur notre plan en immigration et nos cibles », s'est-il contenté de déclarer. Sur la pochette du tout nouveau disque des Trois Accords, on retrouve un homme vêtu tout de blanc, habillé sur la plage, si l'on peut oser le clin d'œil. Sa tête est un ballon multicolore et il tient des maracas, comme s'il avait fait la bamboula toute la nuit et qu'il venait de se réveiller là, les pieds endoloris par les pas de danse. Le titre, « Beaucoup de plaisir ». Voilà une dénomination qui peut paraître évidente pour un album des quatre rockeurs comiques de Drummondville, mais elle trouve son sens dans la forme, dans le fond et même dans le processus de création de ses 11 nouvelles chansons danses et dansantes. On s'est vite aperçu qu'il n'y aurait pas de ballade sur ce disque-là, raconte le batteur Charles Dubreuil, réuni autour d'une table avec le chanteur et parolier Simon Proulx, le bassiste Pierre-Luc Boisvert et le guitariste Alexandre Parr. Au cœur de ces morceaux, il y a le désir des trois accords de ne pas se cantonner dans un concept précis, alors que leurs trois derniers disques, « Dans mon corps »,« J'aime ta grand-mère » et « Joie d'être gay » avaient chacun une cohérence qui guidait l'écriture. « Beaucoup de plaisir » offre des pièces assez diverses. On y trouve entre autres un homme ayant un désir irréfrénable de danser, Corinne, qu'on vous a fait entendre hier, un autre qui multiplie les chutes, commotions sur le ponton, et même une bactérie qui encourage une de ses semblables à atteindre des sommets destructeurs, bactérie numéro 1. Quant à la pièce-titre, elle dresse une liste d'épiceries pour une fête qui pourrait mal tourner. Aide à mourir, on en parlait tantôt aux éphémérides avec Maurice. Répondant à une préoccupation du Collège des médecins, Québec et Ottawa se sont entendus pour faire un formulaire unique à remplir par les médecins qui administrent l'aide médicale à mourir. Sans cette entente, les médecins auraient été contraints de remplir deux fois les formulaires, une fois à Québec, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, et une deuxième fois à Ottawa en vertu des nouvelles obligations imposées par le fédéral. Le ministère de la Santé du Québec et Santé Canada ont convenu d'harmoniser leur système de collecte de données pour éviter les dédoublements. Le nouveau formulaire devrait être prêt d'ici la fin du mois. Le statisticien en chef du Canada veut rassurer les citoyens. Si Statistique Canada s'apprête à recueillir automatiquement et sans leur consentement leurs informations bancaires, c'est simplement pour leur épargner de fastidieux sondages. Et si les informations ne seront pas anonymisées, c'est pour permettre les recoupements avec d'autres données et ainsi produire de meilleures statistiques. Un tollé a éclaté cette semaine lorsque le réseau Global a révélé qu'à compter de janvier, Statistique Canada recueillera auprès de 9 banques les informations de 500 000 de leurs clients, identité, solde bancaire et transactions effectuées. Les députés conservateurs à la Chambre des communes crient au viol de la vie privée et demandent du gouvernement d'interdire ce projet. En entrevue avec Le Devoir, le grand patron de Statistique Canada, Anil Arora, explique que l'agence n'a plus le choix de procéder ainsi parce que les citoyens ne veulent plus s'astreindre à son ancienne méthode de collecte de données financières, soit la consignation dans un cahier pendant un mois d'absolument toutes leurs transactions. Dans un monde où les Québécois et les Canadiens sont plus occupés, non plus de lignes téléphoniques, on vit une diminution de notre taux de réponse, dit-il. Le commissaire à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, a ouvert une enquête après avoir reçu, dans la foulée du reportage, une douzaine de plaintes de citoyens. L'homme soupçonné d'avoir abattu 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh la fin de semaine dernière a plaidé non coupable jeudi. L'homme de 46 ans, Robert Bowers, fait l'objet d'accusations fédérales qui pourraient lui valoir la peine de mort. Il est notamment accusé de meurtre, de crimes haineux et d'entrave à la pratique religieuse. Des responsables ont indiqué que Bowers a multiplié les propos haineux à l'endroit des Juifs pendant la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. 4 policiers ont été blessés pendant la fusillade. Bowers a lui aussi été atteint de plusieurs projectiles. Il n'a manifesté d'aucune émotion pendant la lecture des accusations contre lui. Ça vous dit d'écouter Les Feuilles mortes, on vous l'offre au retour de la pause.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié. La chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi, tu m'aimais, t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des âmes désunies.
Les feuilles mortes par Juliette Gréco.
En une du Journal de Montréal de ce 2 novembre 2018, hockey, deux premiers buts pour la recrue Kotkaniemi donnent le sourire. Selon la ministre Isabelle Charest, les filles doivent bouger plus et les voisins fulminent, les files d'attente dérangent devant des SQDC. La SQDC est un très mauvais voisin. Certains commerçants songent à déménager tellement les activités de la Société d'État les dérangent. Louis L'Espérance possède un bureau de comptable situé à côté de la succursale de Mirabel dans les Laurentides. Depuis l'ouverture du commerce de cannabis il y a 2 semaines, il vit l'enfer. Encore hier matin, un homme qui voulait de la marijuana est entré dans son bureau en demandant « Est-ce que c'est ici qu'on peut avoir du pot? » a-t-il demandé selon le proprio. M. L'Espérance dit que ses clients ont de la difficulté à entrer dans son commerce puisqu'ils sont dérangés par la file de consommateurs de pot qui s'étend souvent sur plusieurs mètres. On voulait agrandir et prendre le local à côté, mais là, on songe à déménager, lance M. L'Espérance, qui dit avoir reçu des plaintes de ses clients. Le propriétaire de la pizzeria Donner Express pensait augmenter ses ventes avec les clients de la SQDC en rage de bouffe, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. Il dit avoir perdu de la clientèle en raison du stationnement qui est toujours plein lorsque la SQDC est ouverte. Les affaires allaient bien pour François Chevalier qui exploite le Minotaure, un commerce de suppléments alimentaires dans le même centre d'achat que la SQDC à Mirabel. Il estime ses baisses de revenus à 10 %. La SQDC dit être consciente du problème de l'achalandage et du manque de place dans le stationnement. On demande aux commerçants de contacter leurs propriétaires et ils vont nous joindre. Nous allons trouver des solutions, a promis le porte-parole de la SQDC, Mathieu Gaudreau. À Montréal, l'odeur de cannabis qui émane des files d'attente devant les magasins de la SQDC envahit les commerçants voisins. Chez Manteau-Manteau, sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, les employés avaient l'habitude de laisser la porte ouverte pour aérer l'endroit. Ils ne peuvent plus le faire tant l'odeur de pot incommode la clientèle. En plus, les gens laissent par terre des verres à café, des mégots. Ça devrait être interdit de fumer dans une file parce que, comme on n'est pas en mouvement, l'odeur ne se disperse pas, lance la gérante du magasin de vêtements Tutti Va Bene, Sarah Cyril. L'odeur et les déchets ne sont pas les seules choses qui importunent les commerçants voisins. Les portes et vitrines deviennent difficiles d'accès alors qu'il faut percer la foule pour accéder aux boutiques. Les magasins voisins de la SQDC situés sur la Plaza Saint-Hubert doivent supporter la file de clients, en plus de travaux majeurs sur la rue. « À la veille de son départ, à la veille du départ de son patron, Robert Lafrenière, la porte-parole de l'unité permanente anticorruption, UPAC, quitte aussi l'organisation. La démission d'Anne-Frédérique Laurence, la voix de l'UPAC depuis les débuts de l'organisation en 2011, a été officialisée à l'interne hier. Elle a accepté un poste dans le secteur soutien à l'organisation du ministère de l'Immigration, peut-on lire dans une note. Elle a réalisé le tiers de ses promesses après un an. Lundi marquera le premier anniversaire de l'élection de la première femme à la tête de la métropole. 21 promesses analysées. Après un sourire qui a teinté la campagne électorale, une victoire éclatante, Valérie Plante et son équipe ont dû se relever les manches pour réussir à concrétiser certains de leurs engagements. Ils n'ont pas réussi à rencontrer toutes les promesses pour la première année de leur mandat, à commencer par celle de ne pas hausser les taxes davantage que l'inflation. Alors, les promesses tenues, achat de 300 autobus hybrides, amorcer des négociations pour une tarification sociale et la gratuité des 65 ans et plus, création du bureau de projet pour étudier l'éventuelle ligne de métro rose, consultation publique pour la mise en place d'un réseau express de vélos, pour parler avec le gouvernement provincial afin d'accélérer la réalisation de l'extension de la ligne bleue du métro, réduire l'utilisation de la voiture de fonction, un des deux postes de chauffeur a été coupé. Ouverture de deux premiers pôles pour start-up dans des édifices vacants au public. Et revitalisation des installations dans les parcs incluant chalets et plateaux sportifs. Promesses non réalisées, pas d'augmentation de taxes. En campagne, Valérie Plante mentionnait que les taxes n'allaient pas augmenter. Et sa plateforme indiquait que la hausse de taxes n'irait pas au-delà de l'inflation. C'est l'augmentation de la taxe d'eau qui a fait bondir la facture. Perdant son sourire devant les critiques, la mairesse a tenté d'expliquer que sa promesse parlait de taxes foncières et que cela n'incluait pas la taxe d'eau. Création du service de permis en ligne à venir en 2019 et du comité pour la réduction de la bureaucratie. Autre promesse non réalisée, mise en application du seuil de 20 % de logements familiaux pour les grands projets d'habitation. Règlement et consultation à venir en 2019. Et rendre public l'agenda de la mairesse. Entre parenthèses, on peut lire rencontres et déplacements. La ministre veut faire bouger davantage d'adolescentes. Au Québec, 9 adolescentes sur 10 ne rencontrent pas les recommandations en matière d'activité physique, déplore-t-elle en entrevue avec notre bureau parlementaire. Il s'agit de la nouvelle ministre caquiste Isabelle Charest. Au point de vue de la santé, ce sont probablement celles qui vont développer de l'hypertension, des maladies cardiaques, du diabète, donc des maladies chroniques. Ça a un gros impact sur la santé, insiste la nouvelle élue de Brome-Missisquoi. Son passé d'athlète et surtout de chef de mission du Comité olympique canadien lui a fait réaliser à quel point il existe pourtant une grande diversité de sports. Sa priorité comme ministre délégué à l'Éducation, c'est de réussir à les faire bouger en ajoutant une heure d'activité parascolaire par jour dans les écoles secondaires. La ministre reste floue quant au moment de livrer cet engagement. Pour septembre prochain, ce qu'on vise éventuellement, oui, c'est d'avoir quelque chose de prêt, dit-elle. Si elle milite en faveur de plus d'activités physiques chez les jeunes, Isabelle Charest ne croit pas que l'État doive intervenir pour taxer la bouffe. Les gens sont capables de jugement. Honnêtement, je prône définitivement plus de campagnes positives que restrictives. Après avoir promis d'agir rapidement pour bannir les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, François Legault préfère maintenant attendre au printemps avant de déposer un projet de loi. « Je pense que ce sera trop court pour le faire avant Noël. On va le déposer probablement au printemps », a indiqué le premier ministre caquiste lorsque questionné à ce sujet lors d'un point de presse avec le maire de Québec, Régis Labeaume. Après un dernier hiver exceptionnel durant lequel 238 cm de neige se sont abattus sur la métropole, la Ville de Montréal se prépare au pire cette année en invitant ses résidents à signaler des besoins en déneigement et en adoptant de nouvelles technologies, dont des drones. De nouveaux croque-glace, plus de celles disponibles sur les routes, une bonification de l'application mobile InfoNeige et même des drones, voilà quelques éléments annoncés jeudi matin par l'administration de Valérie Plante. Tous ces changements-là amènent des coûts. On a un dépassement, c'est un chiffre sommaire de 35 millions en opérations de déneigement pour l'année dernière, a affirmé Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens au comité exécutif. Si d'autres opérations de déneigement surviennent avant le 31 décembre, le chiffre pourrait encore gonfler. Bell sabre 700 postes de cadres. L'entreprise refuse de dire combien d'emplois ont été abolis au Québec. Les temps sont durs pour les employés de Bell. Depuis 4 mois, le géant des télécoms a mis la hache dans son équipe de gestion en éliminant pas moins de 700 postes de cadres, dont plusieurs au Québec. La direction de l'entreprise n'a pas souhaité accorder une entrevue au journal. Elle a aussi refusé d'indiquer combien d'emplois avaient été éliminés au Québec. Une porte-parole a toutefois précisé que cette décision découle notamment de l'intégration d'entreprises acquises au cours des dernières années, telles que Bell MTS au Manitoba. L'efficacité opérationnelle des nouvelles technologies serait également en cause. Et finalement, l'une des deux boîtes noires ainsi qu'une partie du train d'atterrissage de l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmée en mer lundi avec 189 personnes à bord ont été retrouvées. Et finalement, pour vrai, cette fois, le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé hier qu'il allait transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une mesure hautement polémique déjà mise en œuvre en mai par son homologue américain Donald Trump.
N'attendez rien de moi, je ne sais pas quoi faire. Si je parle tout bas, c'est que je voudrais me taire. Mes mots ne marchent pas, mes gestes ne touchent pas. Je souffle du vide dans l'air, je suis de l'antimatière. Je suis hors de portée, la lune c'est ma terre. J'ai la nuit sous mes pieds, mon cœur est un cratère. Je m'applique à moitié, je ne sais pas m'exprimer. Je me complique l'univers et je m'imprime à l'envers. J'ai ruiné tous mes vœux en attendant d'y croire. Si je baisse les yeux, c'est que je crains le miroir. Aide-moi si tu veux, plonge dans mon regard. Repêche le coin de bleu qui se noie dans le noir. N'attendez rien de moi.
Antimatière de Jérémy Kissling.
Nouvelle canadienne, le gouvernement libéral minoritaire du Nouveau-Brunswick a été renversé vendredi matin. Ce matin, lors d'un vote de censure, entre parenthèses, non-confiance, tenu à l'Assemblée législative. Les 22 députés progressistes conservateurs et les 3 députés alliancistes ont voté en faveur, leur permettant d'atteindre le nombre magique de 25 votes. La motion a été adoptée par le compte de 25 votes en faveur et de 23 contre. Concrètement, cela signifie que le gouvernement libéral de Brian Gallant n'a plus la confiance de l'Assemblée et qu'il tombe. M. Gallant a tout juste après déclaré qu'il irait présenter sa démission à la lieutenant-gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau en lui suggérant de confier au chef du Parti progressiste conservateur, Blaine Higgs, la tâche de tenter de former un gouvernement. La convention parlementaire veut que Blaine Higgs aura la chance de faire adopter son discours du trône au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Dans le journal Le Métropolitain, le Congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qu'on appelle aussi AFO, A-F-O, à Richmond Hill, la fin de semaine dernière a donné lieu au gala annuel de l'organisme au cours duquel l'AFO a présenté ses prix de reconnaissance 2018. Cette année, le prix du pilier de la francophonie a été décerné à Guy Matt pour son implication en Ontario français depuis plus de 45 ans. Il est à l'heure actuelle le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, en plus de présider depuis 2004 le Comité consultatif provincial pour les affaires francophones de l'Ontario. Le Centre d'information juridique d'Ottawa a pour sa part le prix de l'Horizon franco-ontarien pour l'offre de services juridiques en français. Et le prix Florent Lalonde, qui reconnaît les efforts et l'engagement d'un bénévole au sein de la communauté, a été présenté à Suzanne Lévesque. Madame Lévesque est reconnue pour sa grande implication dans le nord-ouest de la province, où depuis plusieurs années, elle vise à rassembler la jeunesse de la région de Greenstown. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario. L'artiste françaisoise Annette Campagne, qui a perdu récemment sa sœur Carmen, a rassemblé le 18 octobre 2018 plus de 85 personnes dans la salle de concert de l'Artisan à Regina à l'occasion du lancement de son album intitulé I Am. Elle a ensuite interprété 10 chansons en anglais, explorant les thèmes de la confiance en soi, de la compassion et de l'amour. Des titres comme « Where Peace Resides » ou encore « Dream Deep » invitent à l'autoréflexion tout en communiant l'enthousiasme évident de l'artiste dont le cheminement spirituel est présent en filigrane dans tout l'album. Entre les morceaux, Annette Campagne a partagé aussi anecdotes et bons mots pour le plus grand plaisir du public, avec qui elle entretient une relation de complicité évidente. Elle a ainsi affirmé entretenir avec la musique la relation la plus longue de la vie, reconnaissant avec une belle humilité à la fois 30 ans de carrière, mais aussi la singularité de chaque étape créatrice. L'auteur-interprète souligne que cet album intervient à un moment intéressant de sa vie, mais aussi de l'histoire avec un grand H, puisque selon elle, nous vivons une période d'éveil et de transition sur le plan spirituel. Elle confie d'ailleurs que l'écriture lui vient aussi de plus en plus facilement. À cet égard, elle confie que les chansons de cet album lui sont d'autant plus chères qu'elles sont la manifestation de ce changement. Malgré un public majoritairement anglophone, l'artiste a redit son amour et sa gratitude vis-à-vis de la communauté francophone de la Saskatchewan. Et en plus d'interpréter 10 chansons dans la langue de Shakespeare, elle a interprété une chanson sur Calamité Jane en français, confessant que le texte lui était venu comme si la fameuse figure du banditisme lui avait chuchoté à l'oreille. Annette Campagne a célébré cette grande menteuse avec superbe. dans Franco-Presse, le groupe Improtéine qui parle de standardiser l'accent franco-ontarien dans l'un de ses clips, est-ce le genre d'humour qui peut servir à transmettre aux jeunes le plaisir de parler français? Ou encore, écrire des blagues ou participer à un concours sur scène, est-ce que ça fait vraiment vivre la langue française? C'est ce genre de questions sur lesquelles se penche Christelle Paré pour les trois prochaines années. Professeure à l'École nationale de l'humour à Montréal, Christelle Paré a plongé cet été dans la piscine de l'humour franco-ontarien. En étant membre du jury pour le concours LOL Mort de rire, destiné aux 14-18 ans, et initié en 2014 par deux enseignantes de Glengarry dans l'Est ontarien. C'est l'Association canadienne-française de l'Ontario, Stormont, Dundas et Glengarry qui l'avait approchée pour qu'elle fasse partie du jury afin de s'imprégner de l'humour des jeunes, histoire de mieux démarrer sa recherche sur l'humour comme vecteur de transmission du français en Ontario. La docte étude doit se faire auprès des jeunes participants franco-ontariens de LOL Mort de rire et de l'Université Saint-Paul à Ottawa qui accueille dans ses murs Christelle Paré. Il faut dire que l'universitaire en connaît un bout sur l'humour. Chercheuse postdoctorale au Centre Comedy Studies Research à l'Université Brunel de Londres, Christelle Paré mentionne que les recherches sur l'humour se font surtout du côté anglophone. C'est le cas en Californie avec l'International Society for Humor Studies, auquel est associé l'Observatoire de l'humour, centre de recherche multidisciplinaire fondé en 2011 par l'École nationale de l'humour. La démarche scientifique permettra de recueillir pendant 3 ans les commentaires à la fois des participants, de leurs parents et de leurs enseignants avant et après le concours. Est-ce que les jeunes ont un sentiment d'appartenance plus fort avec LOL? C'est ce que je veux démontrer, explique la chercheuse, qui est aussi chroniqueuse, prouver de façon rigoureuse que l'humour peut servir aussi d'outil pédagogique et favoriser l'apprentissage du français. D'ailleurs, après 5 ans d'existence, le concours propose dorénavant un volet « formation ». Vincent Poirier, membre d'Improtéine, est l'un des formateurs. Avec ses 15 ans d'expérience au sein du groupe d'humoristes, sa vision émane du terrain. S'il est certain d'une chose, c'est que l'humour franco-ontarien a explosé depuis les débuts du groupe. Et dans l'Aurore boréale, le journal francophone du Yukon, s'était publié cette nouvelle dans ce journal le 25 octobre par Thibault Rondel. Le 17 octobre, le cannabis récréatif est devenu légal au Canada. Est-ce que vous le saviez? Et oui, ce jour-là, plutôt 1000 Yukonais ont visité l'unique point de vente du territoire. À l'extérieur du commerce, la file d'attente était visible toute la journée, un peu comme à Montréal et ailleurs aussi dans le pays. Il n'aura pas fallu longtemps au gouvernement du Yukon pour engranger les premiers bénéfices tirés de la vente de cannabis légal. En l'espace d'une journée, le chiffre d'affaires total s'est montré à presque 6 000 $. Plus de 700 transactions ont été enregistrées au point de vente du 120B Industrial Road, selon la Société des alcools du Yukon, à qui a été confiée la gestion de cette nouvelle branche. Afin de réguler le flux de curieux, il ne pouvait y avoir que 12 personnes à la fois dans le commerce. Les Yukonais ont dû prendre leur mal en patience, mais tous les clients ont pu effectuer leur premier achat, à condition de ne pas être intoxiqués et de présenter une preuve d'identité valide. 20 personnes se sont ainsi vues refuser l'entrée du magasin. Pour cette première journée, le montant moyen du panier a été évalué à environ 73 $. En ligne, la dépense moyenne a été de 120 $. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Encore une demi-heure à venir, une section culturelle et beaucoup de suggestions sorties puisque la fin de semaine est à nos portes.
Le rose qu'on nous propose savoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment. Et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Louzouli. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment.
Sentimental, Alain Souchon.
Il y aura peut-être des foules au cinéma puisqu'on annonce du temps plutôt gris et pluvieux, surtout pour aujourd'hui et demain. Alors, profitons-en. Il y a un film québécois qui s'intitule « Les salopes ou le sucre naturel de la peau ». C'est réalisé par René E. Beaulieu avec Brigitte Poupard, Vincent Leclerc et Nathalie Cavezzali. Marc-André Lucier accorde 4 étoiles sur 5 à ce drame de mœurs ou de mœurs. Je vous en lis quelques extraits de sa critique. D'entrée de jeu, René Beaulieu affiche ses couleurs. Les premières images de son nouveau film sont celles d'un couple se livrant à un rapport sexuel intense filmé au ralenti. Accompagné d'une musique tribale, comme pour évoquer la pulsion animale qui pousse deux êtres à s'engager dans de tels ébats. La réalisatrice, qui signe un deuxième long-métrage après Le Garagiste, exprime ainsi sa volonté d'aborder la sexualité de façon directe et frontale, sans aucune équivoque. Après la séance, alors que les deux partenaires, qui n'ont visiblement rien d'autre en commun qu'une complicité sexuelle, se rhabillent et échangent les banalités d'usage, Marie-Claire, Brigitte Poupard, retrouve sa vie quotidienne, l'entente de couple ouvert qu'ont conclu son mari Adam, Vincent Leclerc, et elle stipule aussi que les deux conjoints ne se parlent jamais de leurs aventures extra-conjugales. Et plus loin, Marc-André Lucier écrit « Le propos est résolument féministe, mais il comporte aussi des ondes d'ombre. Bien sûr, le titre du film est provocant, je vous le rappelle, « Les salopes ou le sucre naturel de la peau » et renvoie aux deux poids, deux mesures avec lesquelles les femmes sont trop souvent encore aux prises en matière de sexualité. Surtout quand celle-ci est pleinement assumée et vécue sans culpabilité. Aussi convient-il de souligner l'exceptionnelle composition de Brigitte Poupard qui plonge ici courageusement dans un rôle casse-gueule en modulant avec virtuosité toutes les tonalités d'un personnage complexe. L'actrice porte ainsi à bout de bras ce film qui ne fera sans doute pas l'unanimité. La discussion sur le film que suscitera ce film devrait être fort intéressante, dit M. Lucier. Un autre film, cette fois une comédie fantaisiste de Nutcracker and the Four Realms, c'est Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, en français donc, et c'est un film qui met en vedette Keira Knightley, Mackenzie Foy, Jaden Fora-Knight et Helen Mirren. Aérienne flamboyante traversée par une ambiance de Noël qui nous transporte dans le Londres de Dickens, la séquence d'ouverture de ce beau film annonce ses couleurs. Ce casse-noisette va nous prendre aux tripes et nous ramener en enfance, et c'est le cas. C'est ce que raconte André Duchesne dans la presse, tantôt chargé et merveilleux, tantôt sombre et terrifiant, mais pas longtemps, traversé de mille et un personnages tous aussi excessifs et ardents les uns que les autres. The Nutcracker est un film qui se déroule à un rythme d'enfer et dont le déroulement est émaillé de plusieurs renversements de situation. Si plusieurs scènes donnent le tournis tellement elles sont intenses, d'autres, au contraire, nous étreignent le cœur, tel l'incontournable numéro de Ballet au Palais, une merveille. Emma Peters de Nicole Fallot avec la Québécoise Monia Choukri. Il y a également Fabrice Adé et Stéphanie Crayancourt qui jouent dans ce film. La prémisse d'Emma Peters est intrigante. Une jeune actrice qui décide de se suicider parce qu'elle a le sentiment de n'avoir rien accompli. Surtout si on décide d'en rire. Mais la suite, une comédie romantique prévisible et tirée par les cheveux, ne remplit pas ses promesses. Heureusement qu'il y a Monia Choukri dans le rôle principal. Les coproductions produisent parfois des situations incongrues pour les acteurs. Monia Choukri a l'avantage d'avoir joué sous la houlette du réalisateur belge David Lambert dans le très beau « Je suis à toi ». Pas de problème d'accent ici, ça coule de source. L'actrice québécoise d'abord éteinte et les yeux exorbités. Campe ensuite une Emma Peters qui revient à la vie lorsqu'elle a décidé de sa mort. Le jour de son 35e anniversaire. Pour partir en beauté, elle va dans une entreprise de pompes funèbres où elle fait la rencontre d'Alex, interprété par Fabrice Adé, employé excentrique bien décidé à aider sa cliente du mieux qu'il peut. Évidemment, de gaffe en malentendu, rien ne se passe comme prévu. Alors, sujet grave, traité avec légèreté. Autre film très attendu, celui-là, les critiques ne sont pas très enthousiastes, mais Marc-André Lucier écrit « Dire de la rumeur entourant ce film qu'elle est défavorable relève presque de l'euphémisme. Bohemian Rhapsody a en effet déjà suscité sa part de critiques virulentes dans la presse anglo-saxonne, celle de Grande-Bretagne en particulier. Pourtant, ce drame biographique, très classique dans sa forme, il est vrai, surprend agréablement. Le synopsis, c'est le parcours du groupe Queen et surtout de son leader, Freddie Mercury, de la formation du groupe jusqu'à la fameuse performance au concert Live Aid à Londres en 1985, alors que le chanteur se savait déjà atteint du virus du sida. Classique, le conseil d'administration et le directeur général du Festival de la Naudière, François Bédard, ont annoncé officiellement jeudi la nomination de Renaud Loranger à la direction artistique du festival en succession à Grégory Charles. Cette désignation à venir avait été dévoilée par Le Devoir à ses lecteurs dès le 14 août dernier. Avec l'arrivée de Renaud Loranger, un enfant de Joliette âgé de 34 ans, le festival fait le choix d'un natif du coin ancré dans le classique qui a fait ses classes à l'étranger d'abord chez Deutsche Grammophon à partir de 2011, à titre de producteur délégué responsable de la division vocale, puis de la division française, et depuis octobre 2016 en tant que vice-président artistique et répertoire de l'étiquette de disques néerlandaise Pentatone. Les 70 ans du rocker sanctifié, je parle ici de Lucien Francoeur, le chanteur du groupe Autre Chose, qui a eu 70 ans en septembre dernier. Et dans le cadre de Coup de cœur francophone au Foufoune électrique, il est en spectacle ce soir, c'est-à-dire qu'on lui rend hommage. C'est à compter de 20 heures. Pour revenir à Lucien Francoeur, un peu plus de détails ici, ce banquet de bums, c'est Dominique Tardif qui écrit cela dans Le Devoir animé par MC Gilles, réunit en première partie une dizaine de poètes, sa fille Virginie, sa blonde Claudine Bertrand, Jean-Paul Daou, Claude Péloquin, avant un spectacle de la version 2.0 d'autres choses, dont se mêleront des invités comme Papillon, Yann Perrault, des membres de Voivode, Michel Faubert, des Charbonniers de l'Enfer, et évidemment Lucien Francoeur. Championne du box-office québécois et canadien l'an dernier, la comédie de Père en flic 2 mettant en vedette Louis-José Houde et Michel Côté récolte un honneur nouveau. Le réalisateur Émile Gaudreau ainsi que ses co-scénaristes Sébastien Ravary et Erika Bouliane sont les récipiendaires du plus récent prix Guichet d'or décerné par Téléfilm Canada. Les créateurs du long-métrage qui a amassé près de 7 millions de dollars dans les salles obscures en 2017 se partagent du même coup une enveloppe de 40 000 dollars. Du côté anglophone, les réalisateurs Eric Warren et Eric Sommers sont les lauréats du Golden Box Office Award grâce aux 3,6 millions de dollars amassés pour leur long métrage d'animation Ballerina lors de sa projection sur les écrans des cinémas du pays en février et mars 2017. Sur scène à Paris jusqu'à la fin de l'année avec Badouri rechargé, Rachid Badouri pense déjà sérieusement à son troisième spectacle dont le rodage s'amorcera en juin au Québec, on l'apprend dans le Journal de Montréal. Ce one-man show, qui n'a pas encore de titre, sera, dit-on, plus sobre et plus personnel. Le public de Sainte-Geneviève et celui de Laval seront les premiers à entendre les nouvelles blagues de l'humoriste. Des billets pour de nombreuses dates sont déjà en vente en ligne à rachidbadouri.com. Le premier spectacle de Badouri, Arrête ton cinéma, a été certifié triple platine. L'artiste a aussi reçu une plaque double platine en 2015 quand plus de 200 000 places ont été vendues.
Stéphane Morail, Reckoning.
Stéphane Morail qui a une très, très belle voix. Chaque fois que j'entends cette chanson-là, je pense à Peter Gabriel's Sledgehammer. Je trouve qu'il y a quelque chose des familiarités. Alors, allons-y donc avec la suite et la fin de l'émission, puisqu'on termine à 11h30 le vendredi. Philippe Dubuc signe la création du nœud papillon de la 5e édition de la campagne de sensibilisation Nœuvember. Alors, contre le cancer de la prostate organisé par Procure. En tout, 24 personnalités s'unissent à titre d'ambassadeur de la campagne, dont Jeff Petrie, Joey Saputo, Patrick Boivin, Julie Bélanger, Isabelle Maréchal et Dany Turcotte. À noter que Marie-Pierre Morin et Philippe Dubuc ont créé ensemble un coffret en édition limitée de 5 chics nœuds papillons. Procure est un organisme à but non lucratif consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, à la recherche et au soutien aux hommes qui souffrent de cette maladie. Le nœud papillon est en vente au coût de 35 $ plus 5 $ de frais d'expédition. Le coffre se détaille 500 $ dont un reçu fiscal de 250 $. Simone Biles a remporté son 4e concours multiple au championnat du monde de gymnastique artistique hier. L'Américaine âgée de 21 ans est ainsi devenue la première femme à réaliser ce fait d'armes aux mondiaux de gymnastique artistique. Le Grand Cirque de la Formule 1 est en route vers le Vietnam. La capitale Hanoï accueillera en 2020 son premier Grand Prix, annoncé hier le régime communiste, prenant de court le promoteur du championnat du monde en lançant une invitation à la présentation du circuit la semaine prochaine. Sollicité par l'agence France Presse, le promoteur n'a pas confirmé cette information. Les autorités vietnamiennes soutiennent depuis des mois ce projet de course sur un circuit urbain qui, selon elles, doit être financé par le secteur privé. Liberty Media envisage d'accroître jusqu'à 25 le nombre de courses par saison, contre 21 en 2018 et 2019, quitte à en raccourcir les formats. Les circuits urbains devraient dans ce cadre être privilégiés. Suggestion sortie, ça se passe demain dimanche au marché Bon Secours, 300 rue Saint-Paul, dans le très beau Vieux-Montréal. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire au festival zérodéchet.ca. Adopter un mode de vie zéro déchet peut paraître hors d'atteinte, mais tout changement commence par de petits gestes. Ce sera chose possible au deuxième festival zéro déchet, où une multitude de conférences et d'ateliers donneront de quoi réfléchir aux néophytes comme aux adeptes finis. Il sera question de consommation responsable, de gestion des déchets, d'obsolescence programmée, de décroissance, de gaspillage alimentaire, de compost et de recyclage, notamment. On pourra aussi discuter avec les exposants, visiter un appartement zéro déchet bâti sur place et visionner samedi soir le documentaire d'Al Gore, Le temps de l'action, la suite d'une vérité qui dérange, tous deux sur les changements climatiques. Fin de semaine, on pourra voir Gros Biscuit avec René E. Robitaille et Étienne Loranger, un conte-spectacle inspiré de l'univers de Robert Munch, samedi 11h, demain matin, au Centre éducatif René Goupil, qui est situé au 4105 47e Avenue, et dimanche, 11h encore, à la salle de la diffusion de Parc Extension, cette fois au 421 rue Saint-Roch. L'entrée est libre jusqu'au 11 novembre. La Maison Théâtre, qui est située sur Ontario-Est, présente Petite Sorcière en solo pour les 6 à 9 ans. Et cette fois, le tarif est de 17 $. La résurrection d'Orson Welles, le film testament du réalisateur de Citizen Kane, existe enfin entièrement reconstruit. 33 ans après la mort d'Orson Welles, Netflix met The Other Side of the Wind en ligne aujourd'hui sur sa plateforme. En 70, The Other Side of the Wind, de l'autre côté du vent, est le titre en français, devait marquer le grand retour d'Orson Welles à Hollywood après plusieurs années passées en Europe. Bien avant The Player de Robert Altman, le célèbre cinéaste alors âgé de 55 ans, propose une vision grinçante du monde du cinéma en pleine mutation. Pour alimenter son approche satirique, il s'inspire de Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, aussi de Model Shop de Jacques Demy, et raconte l'histoire de la fabrication d'un film dont le réalisateur J.J. Hannaford, John Huston, compte montrer des extraits à son entourage lors d'une soirée organisée en l'honneur de son 70e anniversaire de naissance. Même s'il a essayé pendant 6 ans de terminer son film, Orson Welles a dû renoncer faute de financement. En 2009, le producteur Philippe Jan Rimza, apprend l'existence de bobines remisées dans une chambre forte à Paris et se met en tête de le terminer. Il aura l'appui de Peter Bogdanovich, l'un des protégés de Welles, et du producteur Frank Marshall. Suggestion sortie jusqu'au 11 novembre, le Festival du monde arabe de Montréal propose plusieurs événements, conférences, spectacles et films à la Place des Arts et dans les alentours. Certains événements sont gratuits. Ils auront lieu à l'espace Georges-Émile Lapalme, c'est à l'intérieur de la Place des Arts. Ainsi, vendredi aujourd'hui, donc 15h, le danseur Tanvir Alam nous fera mieux connaître le Kathak, une danse indienne classique. Demain 16h, l'artiste Sidi Bémol se racontera. Dimanche 16h, Florence Leclerc présente le spectacle de danse Debout. Festivalarabe.com pour avoir encore plus de détails. Et jusqu'au 11 novembre également, dans le cadre de Coup de cœur francophone, 125 artistes et groupes présenteront leur musique et leurs albums dans 18 lieux de diffusion de Montréal. Alors profitez-en, coupdecœur.ca pour tous les détails, entre autres Fanny Bloom au théâtre... Zachary Richard à l'Astral et Fanny Bloom au théâtre aux Écuries. Voilà, c'est tout pour cette émission d'aujourd'hui. Première fin de semaine du mois de novembre. N'oubliez pas de reculer votre heure partout où vous avez des appareils qui indiquent l'heure. Vous le faites quand vous le voulez, en autant que vous soyez au rendez-vous dès lundi. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis. Bonne fin de semaine, vous tous.